Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bosuma.
Élection 2023 en RDC. La Cour constitutionnelle corrige partiellement la décision de la CENI du 13 janvier dernier. Elle rend un arrêt unique proclamant définitivement élus 500 députés nationaux et clôture ainsi l'examen des contentieux des résultats des législatives nationales de décembre dernier. Nord Kivu, situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans les localités nouvellement occupées par le M23. Si une accalmie précaire règne dans la Ruindi et Vichumbi, l'axe Mueso-Kashuga en revanche reste instable, signale des sources sur place. Et puis, l'invité de ce matin, Diane Toudi, coordonnatrice de la plateforme Femmes Citoyennes Engagées. Depuis Beni, elle parle notamment des mécanismes à mettre en place pour contrer la violence faite aux femmes et leur permettre de jouer les premiers rôles dans l'économie, la consolidation de la paix et l'action climatique. Madame, Messieurs, bonjour. Contentieux des résultats des élections législatives nationales, la Cour constitutionnelle a proclamé 46 députés définitivement élus, occasionnant le remplacement de 42 qui siègent encore sur une cinquantaine des dossiers déclarés recevables et fondés. C'était au cours des arrêts rendus à son audience publique hier à Kinshasa. Elle a donné acte à 21 désistements et déclaré irrécevables 525 affaires, 400 dossiers recevables mais non fondés. Deux membres du bureau provisoire d'âge de l'Assemblée nationale, soit Ajema Tembo et Bahati Fils, ont vu leur scrutin être annulé au profit des nouveaux entrants à la Chambre basse du Parlement. D'autres détails avec vous, Jeff Ngoy Mulonda.
Parmi des personnalités emblématiques proclamées élues figurent notamment José Mpanda du regroupement A24 contre Jacques Ngando d'AFPCA pour la circonscription de Mbujimayi, Gisaro Alexis de l'UDPS, Tshisekedi contre Delphin Kamanda du même parti pour la circonscription d'Uvira, et Medi d'Ensemble pour la République en lieu et place de Pascal Tutu Kalumu dans la circonscription de Kabare, Adelkaïnda Daldek dans la circonscription de Sandoa Ololaba, Modéron Simba à Mwanda au détriment de Robert Nyombo, Jean-Marie Kabengela Ilonga, allié de l'UDPS en remplacement de Séraphine Kitubu pour Tchangou à Kinshasa. L'Alliance pour l'État de droit avec Massangu Mulongo l'emporte sur le regroupement politique Apine Abe de Lombo à Banza dans la circonscription électorale de Malemba Nkulu dans le Holomami. Maïzana du MLC au détriment de Papin Zombo pour Bolomba. D'autres figures connues sont Sami Badibanga pour la circonscription de Katanda, Nazem Kazembe pour Lubumbashi. La Cour clôture ainsi l'examen des contentieux des résultats en rendant un arrêt unique, proclamant définitivement élus 500 députés nationaux.
Justice toujours. 81 inspecteurs et contrôleurs de travail plaident pour la gratuité de leurs prestations de serment dans une lettre adressée aux autorités judiciaires à Kinshasa, notamment le président du Conseil supérieur de la magistrature et le premier président de la Cour de cassation. Ils dénoncent le monnayage de la prestation de serment par les greffes des cours d'appel qui exigeraient 100 dollars à Kinshasa et 60 en province en violation de l'article 194 du Code du travail. En effet, 2000 inspecteurs et contrôleurs du travail ont été nommés depuis un mois au terme d'un concours en 2023. Parmi eux, certains disposant des moyens financiers sont en train de prêter serment avant d'entrer en fonction et de rejoindre leur poste d'attache, tandis que d'autres se disant dépourvus qualifient ce paiement d'illégal. Gloire Wachipa, inspecteur du travail, parle au nom de la délégation des inspecteurs et contrôleurs du travail. Il est au micro de Jeff Ngoy.
Après avoir été retenu, nous avions suivi une formation. Le document de la nomination sont là et l'arrêté a été signé. Nous sommes déjà agents de l'État. Mais il fallait que nous puissions prêter serment avant d'entrer en fonction. Et comme prévoit l'article 194 du Code du travail, le serment, nous devons le prêter devant la cour d'appel. Il y a aussi l'ordonnance des OPJ qui prévoit à ce que le serment soit aussi prêté devant le procureur de la République. Mais à ce niveau, nous sommes bloqués du fait que devant la cour d'appel, on nous exige deux montants. Nous qui sommes auxiliaires de la justice, nous devons payer un montant équivalent à 100 dollars à 60 dollars dans certaines provinces. C'est-à-dire que le cours d'appel exige un montant pour que nous puissions prêter d'abord serment, alors que c'est un feu qui est illégal.
Mais parmi vous, il y a eu déjà une première vague qui a prêté serment. Est-ce que cela ne vous met pas devant un fait accompli?
En tout cas, en droit reste en droit. Les amis ont prêté serment avec des exigences qu'on les a données qui étaient illégales.
Contactés à ce sujet, quelques greffiers considèrent cette déclaration comme un chantage. Ils parlent d'un arrangement interne à chaque greffe qui fonctionne sans moyens conséquents. Pas de papier, pas de machine, ni micro et baffle pour organiser les cérémonies de prestation de serment que certains récipiendaires acceptent de prendre en charge, nous ont-ils affirmé. Femmes en avant, construire la paix par la lutte contre la désinformation. C'est le thème choisi par la Fondation Hirondelle pour échanger avec les femmes des médias en ce mois de mars. C'était hier à Kinshasa. Ce panel a été organisé par la Fondation Hirondelle dans le cadre du projet sur la surveillance des flux d'informations et le renforcement des capacités dans le secteur médiatique. Pour l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, lutter contre la fausse information et le discours de haine doit être une affaire de tous, car les fake news constitue un danger permanent pour la paix et la justice dans la société. Reportage de Greta Lulendo.
Cet échange s'est déroulé en deux temps. D'abord par un jeu de questions-réponses entre l'assistance et les panélistes. Ensuite par une séance de partage d'expériences autour des causes, conséquences et solutions adéquates pour réduire le nombre de fake news dans les médias congolais. Pour Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, la meilleure façon de lutter contre la désinformation est de partager la bonne information.
Je pense que de manière régulière, nous comme gouvernement, nous nous organisons à travers des briefings par exemple, à donner la bonne information, quitte à voir comment nous travaillons de collaboration avec les médias pour relayer, pour donner des réponses spécifiques à des problématiques spécifiques, ne sachant toujours pas d'où ça vient et de quelle manière ça vient.
Nicolas Berlanga Martinez, ambassadeur de l'Union européenne en RDC, décrit l'impact de la désinformation sur les relations diplomatiques.
On est dans un monde globalisé. Effectivement, il y a des intérêts cachés qui parfois jouent aussi sur les relations diplomatiques. Et on a beaucoup d'exemples. Et pas seulement en Afrique. Regardez ce qui s'est passé, les référendums pour le Brexit au Royaume-Uni. Même les personnes qui utilisaient la désinformation, les lendemains du résultat, ils l'ont reconnu.
Notons que pour la Fondation Hirondelle, ces panels avaient comme objectif de sensibiliser les participants dans la lutte contre la désinformation, la mésinformation et les discours de haine en RDC.
Direction le Nord Kivu. La situation sécuritaire et humanitaire demeure préoccupante dans les localités nouvellement occupées par le M23. C'est notamment le groupement Mutanda, territoire de Rutshuru, et le groupement Bachalimokoto, territoire de Masisi. Si une accalmie précaire règne dans la zone de la Ruindi et Vichumbi dans le Rutshuru, l'axe Mweso-Kashuga, territoire de Masisi, par contre, reste très instable. Bernard Nyangi.
Sur l'axe Mweso-Kashuga-Kalembe, où l'avancée des rebelles du M23 vers Pinga dans le Walikale a été stoppée dimanche, la situation reste très instable, indique plusieurs sources locales. Lundi, des accrochages violents ont opposé les rebelles aux éléments des groupes armés locaux entre 10h et 16h locales, notamment dans les localités Kirumbu et Changé, nord-ouest de Kichanga Mweso. Sous cet axe, la présence de l'armée congolaise est encore signalée autour de Kalembe. Cette localité, à cheval entre les territoires de Masisi et Walikale, a été occupée momentanément samedi et dimanche par les rebelles avant que ces derniers ne l'abandonnent à nouveau pour replier vers Kashuga. Du côté de Buito, nos sources parlent d'une accalmie après l'entrée lundi sans combat des rebelles du M23 dans la localité de Vichumbi, au bord du lac Édouard. Cette localité est la énième que ces rebelles viennent d'occuper les 7 derniers jours dans le groupement Mutanda. Ce, après Kikuku, Nyanzale, Kibirizi, Somikivu et la Rundi, pour ne citer que celle-là. Toutes ces localités sont vidées à près de 80% de leur population qui ont fui vers Lubero et Ikobo dans le territoire de Walikale. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Entre-temps, plus de 200 millions de dollars américains, c'est le montant recherché par le ACR RDC pour répondre aux besoins des déplacements forcés dans l'est du pays. La représentante pays du ACR l'a révélé hier. C'était au cours du premier briefing de cette année organisé à l'intention du corps diplomatique accrédité en RDC. L'objectif de cette rencontre était d'exposer les dernières actualités de cette agence onusienne et faire un plaidoyer pour une collaboration avancée entre toutes les parties prenantes afin de répondre aux besoins des déplacements forcés en RDC. Angèle Dikongé à Tangana, représentante pays du ACR, au micro de Jeff Opela.
Je l'ai souligné aux bailleurs que nous sommes très reconnaissants pour ce qu'ils font pour nous soutenir dans le travail que nous faisons, mais il y a lieu de faire davantage parce que malheureusement la situation n'est pas au beau fixe. Et en dernier recours, je leur ai dit, au vu de tous ces besoins qui s'accroissent pour le plan de réponse humanitaire, nous avons besoin de plus de 200 millions de dollars. L'année dernière, nous sommes à peine arrivés à 50% des financements. Donc 50% des financements, c'est d'autant moins ce que nous devons pouvoir faire pour les personnes qui souffrent.
La représentante pays du ACR a par ailleurs appelé à la fin des hostilités et au retour de la paix à l'est de la RDC. Et puis, la bonne coordination entre les FARDC et les casques bleus de la MONUSCO à travers le centre de coordination conjointe a permis de limiter les dégâts dans l'attaque contre l'hôpital de Drodro en Ituri la semaine dernière. Ces propos sont du gouverneur de l'Ituri au terme d'une rencontre hier avec une délégation de la MONUSCO. Celle-ci était conduite par l'adjoint par intérim de la représentante spéciale du secrétaire général de l'Union RDC, le général Johnny Luboyankashama, qui a une nouvelle fois condamné fermement ces violences, a annoncé que les autorités se mobilisent pour soutenir et relancer l'hôpital de Drodro. On l'écoute au micro de Liliane Niacha.
Nous avons notre centre de coordination des opérations. Et donc, Dieu merci, Madame Bintou nous a permis d'avoir ce centre-là, ce grand centre, de sorte qu'aujourd'hui, nous avons tellement réduit le délai d'intervention que dans les 5 minutes, dès qu'il y a une alerte, nous pouvons être sur place et réagir. Donc, dès que ces hommes-là ont commencé à attaquer, Drodro, nos hommes étaient là en même temps, ensemble avec la MONUSCO, ils étaient là ensemble. Mais malheureusement, comme le village, des assaillants étaient derrière l'hôpital, c'est comme ça que l'hôpital a été touché. Mais sinon, nous avons limité vraiment au maximum le nombre de victimes. Nous avons eu seulement une maman qui ne pouvait pas se déplacer, une maman de 76 ans qui a été malheureusement tuée.
Rendons-nous au Kasaï central. La nouvelle société civile congolaise appelle à une assistance des victimes des habitations ravagées par une pluie qui s'est abattue en fin de la semaine dernière sur la ville de Timbulu. Plus de 200 maisons ont été dévastées, sans compter les écoles, les églises et les lieux de commerce, a indiqué hier à Radio Kapi le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise dans cette contrée. Augustin Mukenge explique dans ses propos recueillis par François Kadima.
La nouvelle société civile congolaise coordination du Kasaï central de Timbulu partage avec douleur la catastrophe naturelle qui a touché la ville de Timbulu et ses environs le vendredi 8 mars 2024 vers le soir où une pluie torrentielle est venue avec une tempête qui a ravagé, qui a emporté, qui a touché plus de 200 maisons, plus de 8 écoles et institutions supérieures. Écroulés, les dépôts et les boutiques des commerçants emportés ou les marchandises même ont été abîmés. Pour le moment, il faut une assistance en urgence pour ne pas enregistrer des morts parce que les écoles sont touchées, les élèves sont obligés d'étudier en dessous des arbres, voire même dehors. Les églises, les ménages, les plantations des gens, au moins s'il y a une assistance auprès du gouvernement central, au gouvernement provincial.
Direction le Congo central. Les inspecteurs agricoles provinciaux de toutes les entités administratives de la province reçoivent des motos neuves. Cette dotation qui rentre dans le cadre du programme de la relance agricole initié par le gouvernement vise à faciliter la mobilité des inspecteurs agricoles provinciaux tout en les rapprochant des agriculteurs. La cérémonie de remise de ces engins a eu lieu hier en présence de plusieurs membres du gouvernement provincial. Reportage de Nana Plurich Mambo.
Ces motos des marques chinoises sont au nombre de 13. Les bénéficiaires sont les inspecteurs agricoles provinciaux des 10 territoires et 2 villes qui composent la province du Congo central. Une autre moto va bénéficier à l'inspection provinciale de l'agriculture. Présent à la cérémonie des remises de ces engins, le ministre provincial de l'agriculture, élevage et développement rural qui représentait le gouverneur des provinces a rappelé que le Congo central dispose de 2 050 000 hectares de terres arables. Mais à cause de l'absence d'un programme concret de développement agricole, seuls 5% de ces terres sont exploitées. C'est dans cette optique que le gouvernement central a initié ces programmes avec comme stratégie la transformation du secteur agricole, la bonne gestion des terres foncières ainsi que la transformation des produits agricoles, a-t-il ajouté. À chacun un toit et un champ dans son village, c'est la politique de ces programmes. La phase suivante de ces programmes prévoit la distribution des centres à terre pour la province du Congo central. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
En plus bref, sachez que la direction de la morgue centrale de Kinshasa procédera dans les tout prochains jours à l'enterrement des corps des personnes indigentes, abandonnées et des morts-nés en provenance de toutes les morgues de la capitale. Dans un communiqué ayant sanctionné la réunion préparatoire de cette opération, la commission ad hoc appelle la population kinoise à ne pas paniquer au passage des véhicules qui vont transporter ces corps et rassure que cet enterrement se fera dans le strict respect des morts au cimetière Fula Fula situé dans la commune de Maluku.
Actualité internationale.
Nous sommes au Nigeria. Des hommes armés ont pris d'assaut hier un village du district de Kajuru dans le nord-ouest du pays. Ils sont passés de maison à maison pour enlever une soixantaine d'habitants. Non loin de là, il y a quelques jours, plus de 250 élèves avaient déjà été kidnappés dans leurs écoles.
L'invité.
Mettre fin à la violence faite aux femmes est une façon de leur permettre de jouer les premiers rôles dans l'économie, la consolidation de la paix et l'action climatique. Mais quel mécanisme mettre en place pour atteindre cet objectif? C'est à cette question que répond Maître Diane Toudi, coordonnatrice de la plateforme Femmes citoyennes engagées. Elle est avec Blaise Makassi.
Maître Diane Toudi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Le secrétaire général de l'ONU rapporte dans son message à l'occasion du 8 mars que de nombreuses femmes et filles sont marginalisées et font face à la discrimination et à la violence. Est-ce le cas dans la région des Béni? Si oui, quel est l'impact de ces mots dans la zone?
Dire que c'est oui parce que nul n'ignore la situation que la femme de la région de Béni traverse. Elle est marginalisée, violée, mutilée. Vraiment, toutes sortes de violences, cette femme est en train de traverser.
Quel mécanisme faudrait-il mettre en place pour investir enfin dans le programme visant à mettre fin à la violence à l'égard des femmes et permettre à celles-ci de jouer le premier rôle dans l'économie, les technologies numériques, la consolidation de la paix et l'action climatique?
Le mécanisme qu'on peut mettre en place, je peux dire qu'il faut ratifier des traités internationaux et régionaux. Là, je veux dire qu'on doit protéger et aussi garantir les lois et les services nationaux soient conformes aux normes internationales sur les droits fondamentaux. Deuxième point, je peux dire, on peut aussi adopter et appliquer des lois visant à mettre terme à l'impunité surtout, et aussi à poursuivre en justice les auteurs de violences à l'égard de cette dernière, et offrir aussi les recours et des réparations pour dédommager cette dernière. Il faut aussi développer des plans d'action national et local. Pourquoi pas aussi rendre la justice accessible aux femmes et aux filles gratuitement, et aussi augmenter le nombre de femmes dans des processus de mise en application des lois et des services à l'égard de la femme. Mettre un terme à l'impunité dans le cadre de la violence sexuelle en période de conflit et de guerre. Investir dans l'égalité des sexes et l'autonomisation de femmes, et aussi améliorer l'autonomisation de cette dernière. Ça, j'insiste beaucoup parce que ça peut faire partie à ce que la femme reste vraiment indépendante et indépendante dans ses actions. Et accroître la sensibilisation du public et la mobilisation sociale. Nous devons aussi mobiliser nos partenaires hommes à l'horizon pour qu'ils prennent position contre la violence à l'égard de la femme et de la jeune fille.
Maître Diane Toudi, peut-on connaître les principaux acteurs de la violence contre les femmes dans la région des Béni et comment les contraindre à abandonner ces pratiques honteuses?
Connaître les principaux acteurs de violence, c'est vraiment impossible de les connaître parce que c'est difficile de connaître son bourreau parce qu'on ne sait pas d'où il va venir, quand et comment. Donc c'est totalement difficile, mais pour ceux qui sont identifiés, nous demandons que la justice fasse son travail.
Pour terminer, quelles sont les attentes des femmes de Béni pour ces mois consacrés à la promotion et surtout à la défense des droits des femmes?
L'attente de femmes de Béni pour le mois des droits de la femme. Vous avez constaté que même pendant la conférence, les femmes ont été habillées en noir pour dire que nous sommes en train de pleurer, nous sommes en train de demander la paix, nous sommes en train de demander la fin des hostilités, tout ce qui se passe dans la région de Béni, dans la province du Nord Kivu. On en a marre. C'est pourquoi les mois consacrés aux droits de la femme, nous demandons rien que la paix. La femme de Béni a besoin de la paix. La femme de Béni a besoin de respirer. Bien sûr, la technologie, oui, on ne refuse pas. L'action climatique, oui, on ne refuse pas. Mais tout ça, ça ne peut pas se faire sans la paix. La paix d'abord, et la femme va travailler sur ça. Parce que c'est impossible de vivre la vie que cette dernière est en train de traverser. La femme demande la paix, rien que la paix.
Maître Diane Toudi, merci.
La coordonnatrice de la plateforme Femmes citoyennes engagées répondait aux questions de Blaise Makassi depuis Béni. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.